Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Je m'excuse, je reviens sur la définition de la cybercriminalité, c'est peut-être un peu tard dans le colloque. Je voulais juste rappeler effectivement notre vision des différentes catégories de cybercriminalité. Donc là, on voit bien qu'il y a toute la partie qui touche à la sphère privée, la partie qui touche au contenu, toute la partie de l'économie souterraine que je vais très rapidement développer aujourd'hui, et enfin là, tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle. Donc effectivement, on ne répond pas aujourd'hui à la problématique de la cybercriminalité par un seul outil. On a beaucoup d'outils pour y répondre. J'ai juste pris quelques exemples. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Effectivement, nous participons depuis le début au projet Signal Spam qui a été présenté par Jean-Christophe. De même, sur la partie mobile, nous avons le projet 33700 qui est un peu l'analogue au projet Signal Spam. Pour tout ce qui est effectivement protection de l'enfance, nous proposons le contrôle parental. Pour la partie protection du périmètre du client, nous avons une suite sécurité complète. Et enfin, nous avons les derniers dispositifs de l'Argel et de la Dopi. Je crois qu'il y a eu un certain nombre d'interventions sur ce sujet. Alors rapidement, effectivement, je vais vous proposer une petite promenade en 3 minutes donc dans le monde de l'économie souterraine qui est celle des botnets. Donc tout ça pour dire qu'effectivement en 10 ans, on a vu un nombre de codes malveillants très important se développer. Il y a une dizaine d'années, quand vous aviez la balle de ping-pong qui se promenait sur votre écran, la nuisance était limitée. Aujourd'hui, quand on a un code malveillant, il est à des fins purement économiques, et c'est ça qu'on va pouvoir voir par la suite. Malgré tout, ce qu'il faut noter, c'est que notre métier, c'est d'éduquer le client, et qu'en fait, dans l'esprit des abonnés Internet, on a encore quelque chose qui est dans le sens de la phrase que j'ai indiquée ici, c'est-à-dire ça doit être inclus et ce n'est pas mon problème. Donc rapidement, les botnets, si on parle de chiffres, de volumétrie, on a beaucoup de mal en regard de la lecture des médias à savoir combien on a de PC infectés. Là, on a différentes sources qui vont de 1 sur 2 à 1 sur 10. On va rester en fait sur le dernier rapport de l'ENISA qui dit qu'effectivement 34% des PC français ont subi une infection durant l'année. Donc ça veut dire qu'à peu près un tiers de la salle ici présente a eu la chance d'avoir un virus sur son PC. Voilà. Ensuite, rapidement, pareil, pour donner un peu les tailles de botnet, on va effectivement de plusieurs millions. Alors là, j'ai pris Rootstock, qui en comptait 250 000 à date de la RSAC, mais qui est monté en puissance, puis est retombé grâce à Microsoft. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle tendance, c'est de voir des botnets de très faible envergure pour être beaucoup plus furtifs et passer ce qu'on appelle sous le radar. Donc là, j'ai pris un exemple qui est ce qu'on appelle un bunker pour vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Alors, vous avez plusieurs catégories d'acteurs qui apparaissent ici. Donc, vous avez les développeurs, les criminels, alors le ou les criminels, l'internaute infecté, le code malveillant lui-même, et puis la banque de l'internaute, ainsi que la banque du Monémule, on va voir ce que c'est, même si on en a parlé, je crois, hier, et le Monémule. Donc, pour revenir sur le fonctionnement, on part du principe que vous n'avez aucune connaissance technique. Et c'est tout ce qui nous effraie aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité de monter un botnet pendant le week-end sans aucune connaissance technique. Vous êtes le cybercriminel, vous allez demander au développeur un code malveillant qui va vous coûter, suivant effectivement le code que vous demandez, entre 500 et 5000 dollars. Tous ces chiffres évoluent au fur et à mesure des demandes. Ensuite, une fois que vous avez récupéré votre code malveillant, si vous n'avez pas les compétences pour aller le distiller sur un certain nombre de PC, ils vont le faire pour vous à raison d'environ 10 centimes de dollars par PC. Encore une fois, ces chiffres évoluent. Une fois effectivement ces codes malveillants installés sur les PC, ce qui va se passer, c'est que les clients en question vont se connecter sur leur banque en ligne. Alors là, suivant la nature du code que vous avez développé, soit c'est uniquement fait pour voler les identifiants de connexion ou des numéros de carte bancaire, des choses comme ça, et auquel cas ces éléments peuvent être revendus directement par le criminel. Donc là, j'avais pris l'exemple de PayPal qui est absent, donc qui se revendent à peu près 7 euros le compte, ou un numéro de carte de crédit à 50 dollars le numéro avec le code PIN. Maintenant, ça, c'est la partie simple. Il y a des choses beaucoup plus complexes qui ont pour vocation, quand vous vous connectez sur votre banque en ligne, de réaliser une transaction à votre insu, en fait, de transfert d'argent. Et en fait, par exemple, vous consultez votre compte, on vous prompte pour un challenge et vous rentrez en fait ce challenge. Et en fait, ce challenge est utilisé pour la transaction qui se passe derrière de transfert d'argent vers le compte de ce qu'on appelle la monnaie mule. Alors la monnaie mule, en fait, c'est quelqu'un qui a été recruté, qui est là pour ouvrir un compte spécifique. En général, c'est même son compte personnel. Il va recevoir d'un coup 5 à 10 000 euros sur son compte. Et il a pour mission, derrière, d'aller retirer cet argent, en général via un distributeur, et de reverser par un biais tel que Western Union 90% de cette somme aux criminels en engrangeant 10%. Donc le modèle est assez simple, il peut être étayé de manière un peu plus complexe de temps en temps. Là, c'était juste un exemple de site qui pouvait être malveillant. C'est bien le code malicieux qui est sur votre PC qui fait que en fait, l'affichage sera celui-là. Et alors là, j'ai juste repris une capture d'écran d'un site qui paraît tout à fait professionnel ici, mais qui en fait est un site de recrutement de mules. C'est-à-dire que vous vous enregistrez sur ce site-là, on vous propose finalement un contrat de travail, et puis vous recevez ce type de mail où on vous indique en fait quelles sont les missions qu'on vous confie, et on vous explique qu'en fait, dès lors que vous aurez procédé à l'enregistrement, vous allez recevoir sur votre compte immédiatement un certain nombre d'euros sonnants et trébuchants, et ça fonctionne très bien effectivement. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que si vous le faites, et certains l'ont fait pour voir ce qui va se passer si derrière vous ne reversez pas la somme, alors effectivement vous n'avez pas la chance d'avoir régulièrement ces 5000 euros qui tombent par la suite. Par contre, ils oublient complètement le fait qu'ils ont perdu 5000 euros dans l'histoire. C'est pour vous donner un peu l'idée de combien il brasse. Il me reste donc une minute. Donc là, très rapidement, je vous avais mis le business model associé donc à ce que je viens de vous présenter. Si vous voulez aller voir votre banquier pour soutenir votre business model. Plus important, ce qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est la partie mobile. C'est-à-dire qu'on avait fait un très gros travail d'éducation sur le périmètre fixe qui commence à porter ses fruits. En revanche, sur le périmètre mobile, il n'en est pas de même aujourd'hui. Et là, c'est un exemple assez parlant, c'est-à-dire on a comparé en fait ce qui s'est passé avec l'envoi de 35 millions de spams et 1 million de SMS, et le taux de conversion est largement supérieur sur le mobile, ce qui veut dire qu'effectivement sur 1 million de SMS, on avait quand même 288 700 personnes qui ont appelé le numéro. Donc on a à ce niveau-là un effort d'éducation encore très important à fournir. Donc là, c'est encore une fois dans le mode le botnet pour tout le monde. Vous avez même des sites en ligne qui vous permettent de monter en compétences et de monter votre propre botnet. Donc c'est l'école entre guillemets des botnets. Vous pouvez même payer par carte bleue. Alors là, je vous laisse responsable de vos choix. Et ce qu'il faut noter surtout, c'est que en fait, très récemment, il y a un certain nombre de kits qui ont été mis à disposition du grand public, qui normalement étaient payants. Alors certes, complètement illégaux, mais qui restait payant, donc non accessible à tout un chacun. Et le fait que ces kits aient été révélés au grand public, par erreur bien sûr, fait que la menace est d'autant plus importante pour nous. Donc je vais passer en fait cette partie-là pour arriver à ma conclusion, c'est la manière dont nous, opérateurs, nous pouvons traiter la chose. Donc nous passons par un grand nombre d'outils que je vous ai présentés sur le premier slide. Nous travaillons sur l'éducation, sur la désinfection des PC, et tout ça passe en fait par les équipes Abuse. Donc les équipes Abuse ont pour vocation d'appliquer une politique de sécurité et fonctionnent surtout sur le principe d'une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une plainte à l'encontre d'un de nos abonnés, nous ne pouvons pas agir. Donc c'est très important pour nous d'avoir ces boucles de rétroaction, et les outils tels que Signal Spam, par exemple, nous permettent de générer cette boucle de rétroaction, en gardant bien à l'esprit que si on a un banqueur, bien sûr, ça ne se verra pas pour un tiers, mais un PC infecté en général n'est pas infecté par un code malveillant, mais par une dizaine, voire une vingtaine de codes malveillants, puisque c'est un PC mal protégé, et que donc la surface visible, ça sera effectivement le spam, les attaques et ce genre de choses. Voilà, je m'arrête, je crois que j'ai dépassé largement.